Bonjour à tous, je suis Charlotte Couffrand et à travers ce podcast, je souhaite vous proposer un voyage. Et si vous partiez avec moi vers un été invincible? Et si nous assumions de faire de nos vies ce que nous voulons vraiment au fond de nous? Et si nous osions tout simplement être juillet? Vous êtes-vous déjà demandé ce que vous feriez si les instants que vous viviez devaient être les plus beaux de votre vie? Je me suis souvent posé cette question et j'ai trouvé la plus belle définition des moments essentiels ornant mon chemin. Ce sont mes instants juillet. Être juillet, c'est savourer chaque minute, chaque seconde, chaque événement de nos vies. Être juillet, c'est oser, c'est avancer, c'est être libre. Être juillet, c'est profiter d'une musique, d'une lumière, d'un parfum. Être juillet, c'est aimer la pluie, l'orage, le soleil que l'on devine à l'horizon. Être juillet, c'est être passionné, c'est avoir le courage de faire, c'est vivre intensément. Être juillet, c'est créer ce podcast avec une envie intense de partager avec vous les pensées qui me construisent, les mots qui me bouleversent et vous faire découvrir les personnes qui m'inspirent au quotidien. Alors venez avec moi, je vous invite à un instant juillet. Pour ce 8e épisode, je suis fière de vous présenter Gauthier Caton. Gauthier est un chef d'entreprise ayant fait un véritable pari, innover et rendre vivant un secteur d'activité dont personne n'aime se préoccuper, celui des pompes funèbres. Quand il reprend l'entreprise familiale, il a à cœur de transformer l'image que nous avons de ce domaine et il ose en faire une activité incroyablement attractive. Gauthier est juillet parce que c'est un optimiste. Il aime dans la vie ce qu'elle a de beau, de fragile et d'éphémère. Mais surtout, rien ne l'arrête jamais, et sa vision, ses projets, il les mène avec une énergie invincible. Alors je suis impatiente de vous présenter Gauthier, le temps d'un instant juillet. Gauthier, bonjour.
Bonjour Charlotte.
Merci d'avoir accepté d'être notre invité sur l'instant juillet. Alors je t'ai présenté comme un chef d'entreprise inspirant, ce que tu es incontestablement, mais avant de commencer ce podcast, il faut avouer que nous nous connaissons depuis 22 ans maintenant.
C'est exact.
Bon, on était tout bébé, hein. On est jeune quand même. Et que je sais à quel point ton chemin et ton parcours ont été riches d'aventures et de surprises. Toi comme moi, nous ne nous serions jamais imaginé nous retrouver là, dans ton bureau de Saint-Cyr-en-Val, pour évoquer ensemble ta vision entrepreneuriale étonnamment liée à notre philosophie. J'ai donc envie de commencer par ça, Gauthier. Comment as-tu fait pour transformer Caton Pompes Funèbres en une entreprise juillet?
Alors, merci de me consacrer du temps. L'entreprise Caton est devenue une entreprise de juillet, comme tu le dis. C'est un long chemin depuis plusieurs années. J'ai, moi, intégré l'entreprise il y a maintenant 18 ans. Aujourd'hui, notre profession a beaucoup changé. Notre métier est de célébrer la vie d'une personne décédée et de plus accompagner son décès. Et ça a ouvert le champ des possibles sur notre capacité à créer des événements extrêmement personnalisés. Le fait de pouvoir collaborer avec les familles, parce qu'on collabore avec les familles. Nous, on ne connaît pas le défunt, on ne connaît pas la famille quand on les rencontre et on n'a pas 6 mois ou 1 an d'organisation. On a 3-4 jours pour découvrir la famille. Et ça, donc du coup, c'est une vraie collaboration sur un temps court avec une famille pour réussir à rendre un hommage à la personne disparue, à l'image de sa vie. Et donc, que la personne ait 80, 90 ans ou qu'elle en ait malheureusement 50 ou 40, la vie d'une personne n'est pas la même d'une personne à une autre. Et elle mérite d'être célébrée. Alors, le mot célébration semble être joyeux, mais finalement, on parle bien d'une célébration de vie. Et donc, du coup, c'est ce qui rend l'entreprise peut-être Caton un peu juillet.
Mais oui, et surtout que tu le fais du coup pour les vivants, c'est-à-dire pour ceux qui restent. Finalement, une cérémonie comme ça, une célébration de la vie, c'est surtout célébrer la mémoire de quelqu'un pour ceux qui restent vivants.
On sait aujourd'hui, et ça c'est aussi une évolution, pendant des années, les familles étaient portées par la religion, enfin, leur religion, quelle qu'elle soit. Le retrait tout doucement de la religion, en tout cas la perte de croyance de certaines familles, nous a amené à faire de plus en plus de cérémonies civiles. Et c'est ce qui a accéléré d'autant plus, pour en revenir à ce que tu disais, la notion de célébration de la vie, parce que finalement, l'entretien auprès d'une équipe paroissiale où on découvrait la vie de la personne, les petits-enfants, maintenant c'est nous qui le faisons. On n'a pas de cadre religieux, nous. Donc on peut aller beaucoup plus loin dans l'investigation sur les sports, les loisirs, les passions. Et ensuite, tout est possible aujourd'hui en termes de décoration de lieux, de textes, de musique, parce qu'on n'a pas de. Rien n'est sacré dans une salle de cérémonie civile ou dans un cimetière.
Mais finalement, c'est rigolo parce que j'aurais pas du tout imaginé ça, mais la façon dont tu parles, vous faites de l'événement, quoi. En fait, vous êtes des concurrents de l'agence juillet.
En fait, notre profession aux États-Unis s'appelle un funeral planner.
Comme les wedding planners, pareil.
Parce que finalement, comme je te l'expliquais, on a un délai court d'organisation, mais en fait, on organise un événement avec une location de lieu, avec différents services à coordonner. Alors nous, ça va être un célébrant, un maître de cérémonie, des marbriers, mais ça pourrait être dans le mariage une location de barnum, un traiteur. C'est exactement pareil. Sauf que le délai est très court et que le moment n'est pas forcément heureux. Donc ça veut dire qu'une famille n'a pas forcément envie de s'impliquer dans des choix qui leur semblent un peu futiles à côté du deuil qu'ils portent. Mais pour autant, c'est très important pour la cérémonie.
Ça veut dire que du coup, c'est vraiment le service qui est essentiel. Il faut que derrière toi, tu aies des équipes qui soient en mesure d'accompagner les gens et de faire pour eux parfois des choses qui ne sont pas en mesure de penser ou qui ne sont pas en mesure de prévoir.
Le plus gros de notre travail aujourd'hui, au sein d'une entreprise comme dans la nôtre, et c'est ce qui peut différencier une entreprise d'une autre, c'est la capacité à permettre à ses collaborateurs d'essayer des choses et de partager sur les expériences de chacun. Ça veut dire que, comme je te l'expliquais tout à l'heure, quand on a un maître de cérémonie qui se permet de rentrer une moto dans une salle de cérémonie parce que le défunt, malheureusement, était passionné de moto, ce qu'on fait, c'est qu'ensuite, on le partage sur un réseau social d'entreprise pour que toutes les idées soient en permanence en train de tourner entre toutes nos équipes. La seule limite, finalement, de nos collaborateurs, c'est leur capacité à imaginer des choses et à proposer aux familles. Et réussir à trouver... la manière d'aborder le sujet avec les familles sans les choquer. Parce que le but n'est pas de leur proposer des choses décalées. On n'est pas sur un événement heureux qui doit être décalé, on est sur un événement qui doit être à l'image d'un défunt. Donc il y a une recherche approfondie de qui était le défunt. Et une fois qu'on a trouvé finalement ce qui représentait le défunt, ça peut être une passion, un loisir, un artiste, un métier. À partir de là, en fait, on commence à attraper un bout de fil et ensuite on déroule sur tout ça.
Mais finalement, même si ce n'est pas un événement joyeux et même si, effectivement, c'est à une période de vie qui est compliquée pour tout le monde, vous êtes quand même sur la rencontre et vous permettez quand même aux gens de se retrouver autour du deuil. Mais est-ce que ce n'est pas justement ça la vie aussi, c'est-à-dire leur permettre de continuer leur vie malgré cette épreuve difficile ?
Un enterrement, alors le terme enterrement est peu adapté avec la crémation, mais on va dire des obsèques, c'est finalement une fête de famille. Comme un baptême, comme un mariage, finalement les rares moments où toute la famille se réunit autour d'un événement. Alors forcément, ce n'est pas un événement heureux, comme j'expliquais, donc c'est pas du tout le contexte n'est pas le même, mais il n'empêche que c'est bien un moment de communion familiale sans...
Et ils peuvent être heureux de se retrouver, du coup.
Et ils sont heureux de se retrouver. Alors bien, là, on va rester à l'esprit qu'en moyenne, une personne décède à l'âge de 80-85 ans, donc... pour éviter de sortir du contexte, mes propos sur des gens jeunes, donc on est sur des gens âgés. Finalement, quand les cousins qui ont 30 ans, qui ne se sont pas vus depuis un an ou deux, se voient aux obsèques de leur grand-mère qui a 85 ans, ce qu'ils retiennent de leur journée, c'est le moment passé en famille.
Et puis finalement, d'évoquer certainement la mémoire de la grand-mère qui les lie, qui font qu'ils sont cousins aujourd'hui. Et quelque part, je pense que, évidemment, elle n'est plus là, la grand-mère, à ce moment-là, mais elle serait certainement très fière, et c'est son but aussi, elle, de réunir la famille et les cousins.
Ce qu'on essaie de garder, d'insuffler auprès de nos équipes, c'est la capacité à comprendre qu'une personne a plusieurs vies. On va prendre le chemin un peu classique d'un monsieur qui décède en premier avant madame, c'est un peu comme ça que ça se passe au niveau des personnes âgées. Le monsieur, il a été un époux, il a été un papa, il a été un grand-père, il a été un compagnon de chasse ou de pêche, et toutes les personnes qui sont présentes l'ont aimé pour, a priori, la même personnalité, mais pour des raisons différentes. Et notre métier à nous, c'est de n'oublier personne, et que toutes les personnes... soit dans la cérémonie et dans les participations qu'on va avoir, puissent avoir à un moment donné un petit clin d'œil par rapport à ce qu'ils ont connu de cette personne. Et en effet, pour le coup, les petits-enfants, ça va être un souvenir de pêche, peut-être l'été quand les parents les laissaient 15 jours. Pour l'époux, ça va être un mari. Et voilà. Et en fait, notre métier aujourd'hui, il est vraiment axé sur ça, c'est de permettre à toutes les personnes qui vont venir à la célébration, à la cérémonie, de ressentir un moment particulier et un peu un moment unique et privé de l'événement. Et ça, c'est vraiment notre métier.
Alors du coup, vous gérez les vivants, le deuil des vivants, et donc effectivement, c'est un métier de santé publique, parce qu'on voit qu'un deuil qui est mal géré, ça peut avoir des conséquences, comme tu disais, de maladies, etc. Et du coup, ça me fait vraiment penser à la période actuelle, et c'est ce qui nous porte aussi en ce moment, c'est comment les conditions psychologiques, ou en tout cas les épreuves difficiles de la vie peuvent impacter la santé. Et aujourd'hui, on le voit, pour protéger avec le Covid, donc on protège les gens, on annule donc tous les événements culturels, tout ce qui est tous les restaurants, tout ce qui est convivialité, parce que faut s'éloigner, parce qu'il faut pas se voir, parce qu'il faut pas s'embrasser, et notamment les grands-parents qu'on va plus embrasser, etc. Et tout ça pour maintenir la vie coûte que coûte. Mais du coup, quelle vie ? Alors, quelle vision t'as de ça, toi, qui justement vois tous les jours que la vie peut s'arrêter brutalement et assez éphémère ? Comment tu vis cette période, toi, de manque de liberté sur ce type d'événement ?
Au niveau des professionnels du funéraire, on a un rapport particulier à la vie. Et c'est valable pour tous nos collaborateurs. On enterre des gens tous les jours. Et dans des conditions qui ne sont pas toujours naturelles et parfois dramatiques. Et en fait, on a une sorte de rapport particulier où on ne peut pas se plaindre de nos problèmes et on n'a pas le sentiment d'avoir des problèmes. Sauf éventuellement certains qu'on aurait vraiment. Mais d'une manière globale, on sait que tant qu'il y a de la vie, tout va bien. Et on sait à quel point on a la chance, entre guillemets, d'être exposé à tous les remords et les regrets des vivants.
Oui.
Et donc, on a la leçon qu'on a à peu près tous, chacun a sa philosophie du métier et son rapport au métier. Mais on peut. En tout cas, on sait qu'il ne faut pas vivre avec ce genre de choses. Et qu'il faut profiter du coup de chaque instant. Donc le Covid nous rappelle encore plus ces choses-là. Mais d'une manière globale, les personnels, le personnel, mais les salariés en général dans le monde du funéraire, sont des gens qui sont des gens, c'est des bons vivants, c'est des gens heureux. Parce qu'on sait à quel point ça se joue à un fil, en toutes circonstances. Donc je pense que ça permet peut-être d'avoir un peu plus de recul sur le contexte actuel et une sorte de philosophie un peu plus, je dirais, peut-être un peu plus positive. Même si ça reste une période compliquée, on a accumulé différentes périodes là, de gens un peu en détresse qui se sont arrêtés, parce que d'une manière globale, la vie professionnelle ne peut pas compenser toute l'instabilité personnelle. Et quand à la base, chez soi, on a des problèmes,
oui.
Et qu'aujourd'hui, on n'a plus d'exutoire, ni le sport, oui. Ni des activités loisirs, ni des. Enfin, c'est quand même difficile.
Et du coup, est-ce que ça t'apprend, toi, au quotidien, avec ta famille et tes enfants qui sont encore petits, sur justement le fait de profiter de chaque instant et surtout de ne pas avoir de regrets, peut-être de choses où tu as l'impression, parce que tu travailles énormément, évidemment, et est-ce que tu arrives à te garder du temps et à te dire, voilà, il faut quand même que je profite des choses qui sont précieuses, parce que je vois tous les jours des gens qui sont certainement partis trop
Alors,
tôt.
Moi, j'ai l'avantage d'avoir en plus, j'ai deux leçons. J'ai des parents qui ont été chefs d'entreprise, qui ont créé une entreprise, donc ont été très absents. Donc j'ai vécu l'absence de parents que je ne veux pas forcément répéter. J'ai pas mal vécu, mais je l'ai vécu. Et à contrario, je vois également tous les départs avec tous les regrets de ne pas avoir dit qu'on l'aimait, de ne pas lui avoir consacré du temps, de ne pas l'avoir, de pas être passé le voir régulièrement. Et c'est des choses qui remontent parce que c'est souvent, dans les premières étapes du deuil, c'est de la colère qui ressort pour ça. Donc souvent, les gens qui sont... qui ont beaucoup de regrets, sont très agressifs. Parce qu'ils en veulent aux autres. Mais en fait, au fond, c'est, ils s'en veulent à eux-mêmes de ne pas avoir participé à tout ça. Ça, c'est évident que quand on a cette double casquette-là, on ne vit pas de la même manière. Alors, à contrario, pour éviter d'avoir des regrets, ça nous rend aussi un peu parano sur tout un tas de sujets. Parce que malheureusement, quand on a des enfants en bas âge, ça commence de les différentes familles qu'on accompagne pour des fausses couches. Donc quand sa femme est enceinte, on pense qu'à ça. Puis ensuite, après l'accouchement, on a des bébés qui malheureusement décèdent de la mort subite du nourrisson. Donc on pense qu'à ça. Et ensuite, on a le début des parents qui vont dire « si j'avais su ». On a des grands-parents qui vont avoir un enfant à la piscine et l'enfant va se noyer. On a une famille qui est dévastée. Et toute leur vie, ils auront ce regret des 30 secondes d'inattention. Donc en fait, on ne peut plus vivre normalement parce qu'on a ça à l'esprit en permanence.
Et donc encore, tu vois, t'as des enfants pas ados parce que moi, je me rappelle de ça, tu vois. Ton père, il a vécu ça.
Ouais.
Eh oui, tu pars du coup, tes premiers permis en voiture, ouais. En discothèque et tout parce qu'à l'époque, il y avait des discothèques et on sortait tout ça dans les boîtes de nuit. C'est plus le cas maintenant, ça n'existe plus. Mais du coup, c'est ces inquiétudes-là, tu vois. Mais ton père, il les a eues en fait.
En tout cas, on a... Dans notre métier, et c'est valable pour tous les professionnels, l'insouciance de la population classique, on ne peut plus la voir. Mais on n'est pas les seuls. Les pompiers, je répète, les gendarmes, c'est des professions qui sont très exposées. Et peut-être encore plus sous tout un tas d'aspects d'inceste, de viol, où nous, on n'a quand même pas ça. Hein. Par contre, oui, en effet, sur les décès accidentels, sur les décès d'inattention, mais je dirais même sur l'hygiène de vie.
Oui.
Parce qu'indirectement...
Ah, mais c'est pour ça que tu cours, en fait.
C'est pour ça que je cours, oui, oui. C'est pas du non, c'est pas du tout pour l'esthétique.
Ah, je pensais.
Non, non, pas du tout.
Parce que là, évidemment, c'est audio, les gens le voient pas, mais t'as un corps de rêve, oui, je pensais que c'était lié à ça.
Évidemment, je travaille tous les jours. Non, non, mais en effet, le tabac, l'alcool, oui. L'hygiène de vie, forcément, quand on a de 20 à 40, 45 ans, on a plein de théories sur le côté bon vivant, qu'il faut bien vivre, qu'il faut profiter, qu'il vaut mieux mourir jeune. Ça, c'est des théories quand on a 35, 40 ans.
Et quand mais on ça a... va, parce que moi, j'ai pas du tout cet âge-là, donc je suis
non,
pas...
Non, non, non,
pas...
non, bien sûr, non, mais toi, à 28 ans, t'es tranquille, mais...
Mais c'est ça. Et tu vois, tu passes le cap des 27 ans, tu vois, justement, de Jim Morrison et tout, déjà, c'est bien.
Oui, oui,
quand
oui,
t'as 28,
oui.
Déjà, c'est que t'as passé un cap en termes d'hygiène de vie.
À l'aube de mes 30 ans aussi, je vis pareil que toi.
Non, mais du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, OK, tu peux pas être inconscient, ou en tout cas, t'étais vraiment conscient du fait que la vie, elle peut être fragile, mais ça t'empêche pas de vivre, quand même.
Oui, oui, bah t'es pas inconscient... En tout cas, t'es hyper conscient du danger, presque trop. Ce qui rend du coup la vie pas forcément agréable à ce niveau-là. Pour autant, t'as une forme de spontanéité pour vivre l'instant. Parce que tu sais que finalement, chaque instant que tu profites, faut en profiter. Alors c'est un peu étrange comme...
Mais non, mais c'est, disons qu'après, on va forcément tous mourir. Et donc quelque part, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ok si tu meurs mais que t'as pas vécu, que t'as rien fait, parce que t'as pris aucun risque dans ta vie, que ce soit professionnellement ou personnellement, et que t'as surtout essayé de tout protéger et de rien risquer, et tu finis par mourir quand même, dans tout cas.
Et c'est-à-dire que l'équilibre, mais ça dépasse l'analyse du métier du funéraire, c'est que est-ce qu'il vaut mieux vivre très intensément peu de temps ou très modérément longtemps ? Mais en fait, ça, c'est des discours excessifs. La réalité, c'est qu'il vaut mieux vivre longtemps avec peu d'excès, pas avec pas d'excès, avec peu d'excès. Et finalement, c'est quand même ça qui marche, parce que on prend toujours en exemple la personne qui n'a jamais fumé qui meurt d'un cancer du poumon, mais on oublie de regarder les dizaines de milliers de morts des gens qui ont fumé toute leur vie. En fait, la réalité, c'est que dans l'ensemble, on peut doser sa vie, et que même en dosant sa vie, de toute manière, à un instant T, un infarctus, un AVC, bref, tout peut arriver. Mais par contre, il ne faut avoir aucun regret. Ça, c'est clair. Il faut...
Et avancer, du coup.
Oui, et avancer et réussir à trouver le bon équilibre entre ne pas vivre la vie comme si c'était son dernier jour à chaque fois, parce que sinon, tu ne construis rien en faisant ça,
mais oui.
Ni familialement, ni professionnellement parlant. Mais pour autant, faut pas non plus à 25 ans penser à la qualité de tes jours quand tu seras en retraite, parce que quand t'as 53 ans tu décèdes, en fait t'es juste,
c'est ça.
T'as fait un sacrifice de 33 ans dont t'as que des regrets en temps passé avec tes enfants, en tout,
bien sûr. Non, mais moi je suis beaucoup en quête de ça, de profiter de l'instant, et c'est justement tout l'enjeu de la philosophie Juillet et de la marque, et l'idée qu'on avait, c'était justement de pouvoir créer des événements pour permettre aux gens de profiter de l'instant. Et je réfléchis beaucoup là-dessus, sur le concept, et tu me connais, tu vois, je suis un peu une littéraire, j'aime bien lire beaucoup et m'inspirer des grands auteurs, et donc j'ai des auteurs référents, et justement, je me demandais, toi, du coup, est-ce que tu as, sur cette philosophie de vie, sur ton parcours, sur ce que tu as construit, est-ce que tu as des livres, des auteurs qui t'ont aidé ?
Le premier livre, tu vas rigoler, je ne lisais pas du tout.
C'est pour ça, je me demandais.
Jusqu'à l'âge de... aussi des magazines de pêche, mais je ne suis pas sûr que ce soit de la lecture.
Mais si, bien sûr.
Je ne lisais pas du tout jusqu'à l'âge de 24 ans, 23 ans, je pense. Ouais, 24 ans. Et le livre qui m'a déclenché, c'était un livre sur la vie de Johnny Hallyday. C'est pour te dire à quel point l'histoire est rigolote. Et en fait, je ne lis... que des... Alors, j'ai lu beaucoup de biographies, mais je suis très orienté parcours professionnel atypique, entrepreneur, etc. Donc, j'ai lu les Steve Jobs, les Elon Musk, etc., 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 ce qui me passionne beaucoup. Pas parce que je veux reproduire un schéma qui existe, mais parce que y a pas de réussite sans sacrifice et sans... Alors, il ne faudrait pas faire un parallèle parce que je ne me classe pas là-dedans, mais sans une touche de génie, quelque chose
ou de folie, ou en tout cas de risque.
Ou tout au moins une approche différente de sa profession ou de son métier. Et la plupart des gens qui ont réussi à développer des choses, alors que ce soit un artisan local ou que ce soit un chef d'entreprise dont je parle, qui sont extrêmement connus, en tout cas, à un moment donné, quand on fait comme les autres, on a comme les autres. Et quand on prend du recul et qu'on arrive à prendre parfois des professions ou des actions de manière un peu diagonale, je suis toujours convaincu qu'on peut faire des choses différentes. Donc tous ces livres-là m'intéressent beaucoup. Et j'ai commencé à découvrir des livres sur... par exemple, il y a un livre qui m'intéresse beaucoup qui s'appelle « Le pouvoir de l'instant présent ». Où on est vraiment sur justement cette philosophie de vie, sur... Alors, c'est ce qui est très à la mode en ce moment, les coachs en bien-être, etc. Donc, c'est un peu dans ce genre-là. Mais je trouve intéressant parce que finalement, je le confronte à ma vision à moi de la vie par mon métier. Et là, c'est des gens qui n'ont pas cette approche à la mort. Mais ils ont quand même cette... Finalement, ils arrivent à peu près à la même conclusion. C'est que finalement, il faut profiter de l'instant présent et que très peu de personnes aujourd'hui ont la capacité de s'arrêter.
Non, mais c'est pas si simple, c'est pas si simple.
Et c'est pas une question de temps. Et je me suis rendu compte, pourquoi ? Parce que, comme tu le sais, vu qu'on se connaît depuis quelques années, je suis passionné de pêche. Moi, j'ai besoin de m'absenter plusieurs jours, des fois une semaine entière, tout seul. Je pars tout seul.
Mais tu sais que ça m'avait bluffé, ça. Parce qu'en fait, tu l'as fait très vite. Effectivement, ouais. On s'est connus, on était tout juste majeurs. Même on s'est connus, t'avais même pas le permis, tu vois. Ouais. Donc c'était un autre monde. Et pourtant, déjà, à cette époque-là, t'avais pas ce côté professionnel, t'avais pas tout ça. T'étais en études, quoi. Et pourtant, t'avais besoin comme ça de t'isoler. Et nous, à l'époque, on te prenait pour un fou, hein. Parce qu'on se disait, mais qu'est-ce qu'il va faire, Gauthier, là, de partir sur sa barque au fond de la Sologne, sérieusement.
Ouais. Et pour autant, j'ai jamais été. Insociable, au contraire. Mais j'ai besoin d'instants, et pour moi, c'est là où, pour en revenir à ces livres, je trouve très intéressant la capacité, parce que je pense que vraiment, des gens n'ont plus cette capacité. De, par exemple, moi, on a des agences sur toute la région, et donc, du coup, la région que je préfère, c'est le Morvan. On a des agences dans le Morvan, où là, c'est magnifique. Parce que peut-être qu'on a la chance de vivre en Sologne et de plus regarder la beauté de la Sologne, mais le Morvan a vraiment un paysage atypique. Et ça m'arrive, alors que je pourrais enchaîner les réunions, de me prendre un sandwich et de manger au bord d'un étang tout seul. Parce que, et ça me prend un quart d'heure, finalement, je pourrais manger sur le parking d'une agence, mais je pense que vraiment, de moins en moins, les gens prennent ce temps de regarder. Juste de... Bah, l'instant est agréable et beau, et voilà.
Et tu te recentres, sur toi aussi.
Oui, mais c'est... Et puis, de se contenter de choses simples et belles. Parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas faire de la théorie, de la thérapie de comptoir, mais les réseaux sociaux te font croire qu'il faut consommer, il faut avoir ci, il faut ressembler à ça. Et c'est terrible. C'est terrible parce que pour résumer, tu es en quête. Tu seras frustré toute ta vie, que tu es en quête de choses inaccessibles et qui sont absolument. C'est-à-dire que quand des fois je vois les gens me dire ouais, t'as vu, ils sont tous en ce moment dans telle station de ski. La définition de tous, c'est qui en fait ? C'est 8 influenceurs. Donc, c'est des gens qui... C'est pas la vie.
Mais non. Et puis, tu trouves toujours plus joli que toi. Tu trouves toujours plus intelligent. Tu trouves toujours...
Moi, j'ai deux choses qui m'animent au quotidien. C'est ce que les autres n'ont. Ce que les autres ont, pardon. C'est pas ce que tu n'as pas. Donc, pour résumer...
Ça t'enlève rien.
Donc du coup, ça, moi, avec cette philosophie-là, je peux être jaloux de personne parce que finalement, ce que les gens ont, ça ne te manque pas.
Ouais,
charge à toi de faire... Alors, peu importe
si
c'est matériel, c'est financier ou autre, hein, mais ou ça peut être juste un équilibre familial. Si ce que tu aimerais, c'est avoir la famille parfaite que tu vois chez tes amis, c'est à toi de faire l'effort de l'avoir par de la communication, par... Voilà. Et ensuite, mon autre théorie, c'est dans la vie, il ne faut pas avoir raison, il faut gagner. Et ça, c'est ce que m'applique au quotidien dans mon combat professionnel.
Étonnée, hein. Je ne suis pas étonnée de ça, tu vois. Ça ne m'étonne pas sur les hommes, justement, que tu peux admirer. Ouais,
parce que j'ai pas d'orgueil mal placé, j'ai pas d'ego démesuré. J'ai des objectifs qui sont pas gravés dans le marbre, mais qui sont des objectifs professionnels, des objectifs familiaux. Et finalement, démontrer ou prouver, c'est perdre du temps et c'est perdre de l'énergie. Parce que vraiment, c'est ça. C'est l'intérêt, c'est pas d'avoir raison, c'est de gagner. En toutes circonstances. Pour obtenir, il faut savoir avancer.
Et du coup, ça veut dire que parmi toutes les bios que tu as lues et les livres que tu as lus, c'est qui alors la personne que tu admires le plus ou celle peut-être qui t'inspire le plus aujourd'hui ?
Si je prends autrement la question et au lieu de chercher une personne, je vais peut-être te dire ce qui dans chaque personne peut m'impressionner.
Ouais.
Par exemple, dans Johnny Hallyday, la leçon, c'est sa capacité à s'intéresser aux générations nouvelles sans arrêt.
À jamais être démodé.
Et pourtant, il aurait pu être complètement has-been, comme plein d'artistes. Il est toujours resté jeune et curieux. Et alors qu'il aurait pu se passer et prendre tous les artistes de haut en disant qu'il était le patron national. Et bien non, il se renouvelait sans arrêt. Et finalement, la leçon de beaucoup de chefs d'entreprise qu'on peut voir, c'est la capacité à se renouveler sans arrêt. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, le digital, l'évolution des métiers, dans notre métier à nous, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont en train d'envahir notre profession. On est à la recherche d'influenceurs seniors pour relayer notre image.
La classe d'influenceurs seniors.
Parce qu'aujourd'hui, ça devient un métier. Ouais. Et que finalement, je pourrais... alors, je suis trop jeune pour le faire, mais dans quelques années, je pourrais me dire, bon, bah, finalement, on a de nombreuses agences, on a un savoir-faire, etc. Pour moi, on est vieux quand on pense comme ça, et on peut être vieux à 40 ans, du coup.
Ah bah tout à fait.
Et même par contre, à côté de ça, j'ai un grand-père qui a 85 ans qui m'appelle sur WhatsApp. Je me dis que finalement, on peut être jeune à 85 ans.
Mais c'est sûr. Et avoir envie, et oser, voilà.
Donc ça, c'est un peu la leçon que je prends dans des Elon Musk, dans des Steve Jobs. Alors, il y a des gens qui sont actuels, il y a des gens décédés, il y a des gens qui étaient plus âgés. Mais en tout cas, c'est une capacité permanente de se renouveler, de prendre leur profession ou art, si on parle d'un artiste comme Johnny Hallyday, de manière différente et décalée et inattendue toujours. Parce que finalement, quand Steve Jobs expliquait que son modèle économique reposerait sur les smartphones et les applications mobiles alors qu'il construisait des ordinateurs, je ne suis pas sûr que c'était évident. Et puis maintenant, c'est évident.
Mais du coup, il avait son pourquoi aussi. C'est-à-dire que quand tu fais, finalement, tu gères une entreprise, tu ne gères pas des tableaux Excel, tu ne gères pas des bâtiments, tu ne gères pas... Alors évidemment, aussi, et je sais que tu sais très bien faire et que tu es très brillant et organisé, mais il y a aussi ce qui te porte, pourquoi tu le fais, pourquoi tu t'es engagé là-dedans et la vision que tu as sur le long terme. Et tu as une vision qui est presque philosophique, en tout cas, qui est une vision de vie, une ambition que tu as. Et c'est ce qu'on a voulu aussi porter sur Juillet. Et c'est ce qui te permet de te renouveler. Et c'est ce qui permet de t'adapter et de jamais être blasé. Parce qu'en fait, ton pourquoi, même si le contexte change autour, économique, social, culturel, peu importe, tu gardes ce qui te porte. Oui, donc, tu évolues.
Et c'est ce qu'en préambule, on discutait. C'est que finalement, c'est ce qui te permet... au niveau de ton entreprise ou alors dans ton parcours professionnel personnel, parce que l'entreprise aujourd'hui est mon parcours à moi, mais peut-être que dans les années qui viennent, ça changera, c'est que finalement, tu n'as aucune appréhension sur le demain. Je ne pense pas être admiratif ni avoir peur de qui que ce soit ou quoi que ce soit. Pas parce que je me sens fort, simplement parce que je ne pense pas être en capacité de comprendre ce que c'est cette appréhension. Les choses viennent comme elles viennent, les opportunités et l'évolution professionnelle est plus une posture qu'un effort. C'est quand on est en position d'attente et qu'on s'ouvre en permanence sur tout et sur tout le monde, les choses viennent.
Alors du coup, ton demain, tu le vois comment ? C'est quoi tes projets ?
Alors nous, on a encore beaucoup de choses à faire. Comme je te l'expliquais, on a plusieurs ouvertures d'agences, par exemple sur 2021. On ouvre 4 agences, dont une à Paris.
Dont une aussi en Loir-et-Cher.
Et on en ouvre 2 en Loir-et-Cher. Une à Nain-sur-Beuvron, une à Blois, une à Paris, 2 dans le Morvan. Donc on continue à se développer. On a, contrairement à ce qu'on peut laisser percevoir, on n'a pas finalement une ambition outrancière d'une quantité de réussite ou d'agences, etc. Finalement, on est juste sans arrêt dans une logique de mouvement. Alors, parfois, ça va être de l'organisation. 2020, par exemple, a été une année qui a été très orientée vers la montée en compétences de l'entreprise sur la réaction sur le Covid, l'axe du digital, l'animation des réseaux sociaux. On a dépassé, je crois, les 3 500 000 personnes qui ont été atteintes sur Facebook par nos publications d'avis d'obsèques. On est en train de révolutionner un peu, finalement, le monde de la communication de deuil. Parce qu'avant, les gens lisaient le journal. Bon, sauf que depuis des années, le métier ne s'est pas beaucoup inventé. Nous, on est rentré dans un système de communication d'avis d'obsèques dans les journaux, mais de manière pas sauvage, mais plutôt élégante. Donc ça a extrêmement été efficace pour pouvoir permettre aux gens d'être informés des décès. Finalement, donc 2020 a été très orienté sur le développement de nouveaux services en interne et la cohésion du groupe. 2021 sera encore plutôt orienté sur les ouvertures d'agences et les reprises d'entreprises. Et à titre personnel, finalement, j'ai pas d'objectif. J'ai un objectif, c'est d'être bien, d'avoir une qualité.
C'est déjà pas mal.
D'avoir une qualité de vie au quotidien. Je veux pas subir mon entreprise, mais je veux vivre avec mes collaborateurs et pas subir mon entreprise et subir mes collaborateurs. Et aujourd'hui, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, pour le moment, ça me va très bien. Et puis, saisir toutes les opportunités. Et si finalement, moi étant la 5e génération à faire ce métier, mon père ayant participé et œuvré pour la chute du monopole national des pompes funèbres en 1993, si à ma manière je peux faire évoluer mon métier, qui est une profession de famille, quasiment ça fait 5 générations, finalement ça sera la plus belle chose que j'aurais faite. Et on se voit marquer, entre guillemets, c'est pas un objectif en soi, mais si je fais évoluer les mentalités comme je le fais en participant à une émission comme la tienne, pour permettre à des gens novices qui ont une vision peut-être un peu biaisée de notre métier ou mal orientée par certains médias qui peut-être nous dressaient un portrait parfois toujours élogieux, bah finalement, je prêche un peu pour ma profession, en fait.
Entre deux ou trois séances de pêche ?
En ce moment, entre une ou deux par an. C'est pas assez.
Non, c'est pas assez.
Mais oui, je me souhaite beaucoup plus de pêche.
Oui, mais alors du coup, une ou deux où tu pars genre trois semaines ou une ou deux où tu pars deux jours,
avec
c'est ça ?
Deux enfants de 2 ans et demi, 3 ans et demi, ouais. Ça marche pas comme ça. En ce moment, c'est plutôt 2-3 jours. Mais ils sont un peu petits encore.
Ils sont petits, c'est ça.
Ouais, mais ça viendra. Ça viendra. On verra ça plus tard. J'ai le temps, je suis jeune.
Ouais, merci Gauthier. On va arrêter le podcast comme ça, sur cette note un petit peu d'humour et surtout optimiste.
Merci Charlotte, c'est gentil.
À bientôt.
À bientôt.
On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel Instant Juillet. En attendant, n'oubliez pas de rire et de crier, de chanter et de danser. N'oubliez pas d'oser. Et si vous décidiez enfin d'être la meilleure version de vous-même, faites de vos moments précieux les plus beaux événements. N'oubliez pas de vivre chaque instant pleinement. Laissez-vous tenter par cet été invincible au fond de vous. Réalisez vos envies et saisissez vos rêves. Vivez l'instant et osez la liberté. Soyez juillet.